Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, quand la crise des idées crève l'écran. Bonjour Nicolas Pariser.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur. Votre deuxième film, Alice et le maire, est sorti mercredi dernier au cinéma, avec dans les rôles principaux Anaïs de Moustier et Fabrice Lucchini. Votre précédent film, Le Grand Jeu, racontait l'histoire d'une manipulation politique. Vous êtes également l'auteur de plusieurs courts-métrages, dont Le jour où Ségolène a gagné, et qui raconte la journée d'une militante socialiste, le jour de la victoire de Nicolas Sarkozy. C'est dire si la politique vous intéresse. Alors les films qui font de la politique leur sujet principal, à ne pas confondre avec les films politiques, ne sont pas si nombreux. Alice et le maire appartient à ce club restreint. Il va permettre à Pierre Scholler de souffler un peu. Désormais, on pourra citer autre chose que l'exercice de l'État pour évoquer la pertinence du genre au cinéma. Cette fois, le cadre n'est pas celui d'un ministère, mais un hôtel de ville, celui de Lyon. Paul Terrano y règne en maître, il est là depuis longtemps, c'est un socialiste. Il veut faire de sa ville la première ville de France, il caresse pour lui-même d'encore plus grandes ambitions. Mais il a un problème, les idées ont déserté sa pensée. Les idées, c'est justement le monde dans lequel Alice évolue. Plus ou moins philosophe, pas très au clair sur ce qu'elle veut faire de sa vie, elle se laisse embaucher par l'équipe de Paul Terrano pour lui rédiger des notes, lui fournir des idées. En fait, ton boulot, c'est de prendre du recul, lui explique une de ses collègues. Alice et le maire vont beaucoup se croiser, malgré leur rapport au temps radicalement différent. Lui est dans l'action, elle dans la réflexion. Alors finiront-ils par se rencontrer? C'est le ressort dramatique de votre film et qui nous a donné envie de faire ce pas de côté. Quand la crise des idées crève l'écran, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Nicolas Pariser. Alors je le disais, le maire interprété par Fabrice Lucchini est socialiste. Est-ce qu'il aurait pu être de droite? Est-ce que ça aurait pu être un maire chiraquien? Est-ce que ça aurait été le même film?
Non, je pense que ce n'aurait pas été le même film. Dans l'absolu, il aurait pu être de droite et je me serais peut-être posé la question si j'avais été obligé de tourner dans une mairie de droite, par exemple à Bordeaux, où la question de la crédibilité d'un maire socialiste dans une ville qui est de droite depuis, sept ou huit décennies, ça se serait posé. Non, disons que j'ai choisi de montrer un maire de gauche d'abord parce que c'est plutôt, disons, ma sensibilité et que donc j'avais moins d'efforts à faire pour inventer des discussions sur l'état de la gauche actuelle. Et puis surtout, je me disais, la droite est moins ambitieuse. La droite, il me semble, alors je me trompe peut-être, mais la droite, elle se pose beaucoup la question de l'efficacité économique, l'efficacité en termes de sécurité, de sa politique. Elle se pose moins la question de la transformation du monde, c'est-à-dire que la gauche se pose moins la question de l'efficacité que la question de la transformation. Il faut réduire les inégalités, il faut changer la société, il faut ouvrir de nouveaux droits, il faut inventer de nouvelles formes de vivre ensemble. Donc nécessairement, elle est plus en contact avec le monde des idées.
Voilà, et pour transformer la société, voilà, justement, il faut l'alimenter en idées, ce que n'a plus le maire Paul Terrano.
Vous voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales. J'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil. Hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections. J'ai mené des équipes. J'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées.
Nicolas Pariser, ce maire qui est en panne d'idées après en avoir eu beaucoup, il vous a été inspiré par un personnage politique particulier ou bien c'est un constat un peu plus général? Vous disiez, c'est un film aussi sur la gauche, mais peut-être même au-delà, c'était un constat sur le monde politique qui n'aurait plus d'idées aujourd'hui.
Alors non, dans les nombreuses libertés que je me suis octroyé par rapport au monde, je me suis dit que je pouvais écrire un personnage d'homme politique qui dirait ouvertement qu'il n'a plus d'idées, en tout cas qu'il n'arrive plus à penser. Et ça, je pense que c'est les deux trois invraisemblances de départ de mon film. Je pense que...
Bon, on ne sait pas ce qu'ils disent dans la confidence des cabinets. Peut-être que certains l'avouent, mais sans le dire publiquement.
Il y a peut-être des conseillers qui vont parler de crise des idées. Moi, je pense que, disons, pour être homme politique, il faut avoir suffisamment confiance en soi, suffisamment confiance dans le monde dans lequel on baigne. Je pense que l'homme politique, comme espèce particulière, ne pense pas qu'il y a plus d'idées. De la même manière, un écrivain pense que la littérature peut encore des choses, que le cinéma n'est pas mort. Sinon, on n'y arrive plus. Donc, je pense qu'un homme politique en exercice, il ne dirait pas ça. Mais moi, je me suis dit, voilà, c'est à la fois un point de départ dramatique, intéressant, et puis ensuite, effectivement, en termes de métaphore, c'est aussi quelque chose qui pouvait se révéler efficace, disons.
Il y a une question de confiance, mais il y a aussi une question de temps. Ce maire qui est campé par Fabrice Lucchini, il est en permanence ou quasi en permanence dans l'action. Ça veut dire aussi que vous faites le constat à travers ce film que être dans l'action, ça pose un souci quand on veut justement produire des idées. Ils n'ont pas le temps, les politiques.
Vous dites action, moi je dirais qu'il y a une part effectivement d'action, mais il y a aussi une grosse part d'agitation.
Oui, ou de mouvement peut-être, ce serait plus précis.
Quelqu'un qui est sans arrêt dans des voitures, dans des trains, dans des hélicoptères, dans des avions, qui dirige des réunions, qui préside des comités, qui fait des discours, etc. Il a une vie tellement remplie, son emploi du temps est tellement délirant, que le temps de prendre un livre ou d'écouter une émission ou d'écouter un concert, je pense que ce temps-là qui est si important pour tout le monde, ce temps-là, ils ne l'ont plus.
Mais ça, pour revenir à une question précédente, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé de près ou bien c'est une intuition que vous avez eue en regardant peut-être, je ne sais pas moi, des documentaires, des films sur la vie politique ou plus simplement les actualités ?
C'est les deux, c'est-à-dire que quand on est réalisateur, il y a une part d'observation, mais l'observation, elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'on n'est pas sociologue, donc on n'a pas le temps de faire une étude, de faire des entretiens de 5 heures avec 80 hommes politiques ou femmes politiques. Donc il y a une part d'observation, parce que voilà, je regarde la télévision, j'ai des amis qui travaillent dans la politique, et puis il y a évidemment une grosse part d'intuition.
Sur cette panne des idées donc, qui structure votre film, Nicolas Parizère, moi je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage, c'est-à-dire peut-être pas seulement un manque d'idées, mais des idées qui, alors celles de Paul Terrano, ne sont plus adaptées au monde dans lequel il vit. Est-ce que ça raconte pas ça aussi votre
oui, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de manque, d'idées en général. Je pense qu'il y a une prolifération d'idées, une prolifération même de travaux intellectuels tout à fait passionnants. Ce dont parle le film, c'est le problème de l'articulation entre le monde intellectuel et le monde politique et le constat que peut-être le monde politique vit sur un terreau d'idées qui ne sert plus à grand chose.
Et ça, c'est ce qu'on entend bien dans cet extrait suivant. Nouvelle discussion entre le maire et Alice.
Moi, je crois aux idées, au progrès. Je crois à la croissance infinie, à l'infinie ingéniosité humaine. Je crois aux vertus des luttes sociales. J'ai la conviction que l'humanité ira vers toujours plus de droits, toujours plus d'instruction pour tous, toujours plus de dialogue, toujours plus de culture. Et moi, je vous retourne la question. Comment on fait ? Comment on fait quand on est un homme de gauche comme moi et qu'en face de vous la droite et une partie grandissante de la gauche disent d'une seule voix « Plus rien n'est possible que la gestion de la pénurie ».
Je vais être brusque.
Allez-y.
Vous n'avez pas l'impression d'être devant un mur infranchissable depuis 30 ans ? Vous n'avez pas l'impression de plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression. L'impression d'une impuissance infinie.
Alors, Nicolas Parizère, vous le disiez, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas politologue non plus, mais votre regard de cinéaste sur cette situation politique contemporaine est très intéressante. Vous êtes devant un mur infranchissable. Est-ce que c'est ça, pour vous, aujourd'hui, la vision de la politique et peut-être de la politique à gauche ?
Oui, j'ai l'impression que, en tout cas, une majorité de citoyens considèrent que les hommes politiques n'ont plus de prise sur la vie et que peuvent éventuellement construire une école à un endroit où il y a besoin. Mais enfin, les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit en termes de chômage, en termes d'angoisse par rapport à l'environnement, etc., il y a quand même cette impression d'impuissance énorme. Et je pense que ce sentiment, vous me parlez tout à l'heure du choix d'un homme politique de gauche, il est plus grand à gauche. Parce que, par exemple, la question de la croissance, la gauche fonde, disons, ses projets de progrès social sur la croissance. S'il n'y a plus de croissance, c'est très compliqué de trouver l'argent nécessaire. Alors que la droite, dans un premier temps, effectivement, elle apparaît comme un truc qui est proche du capitalisme, proche de l'argent, proche des milieux d'affaires, etc. Mais elle peut très facilement basculer sur un monde en pénurie et sur un État extrêmement autoritaire. Je veux dire, d'une certaine manière, la droite a gouverné le monde, en tout cas l'armée, l'Église, la royauté, a gouverné le monde pendant des siècles. Il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas de progrès social. Je veux dire, elle sait faire la droite. Elle sait faire dans un monde en pénurie.
Donc la droite serait davantage adaptée à l'effondrement, si jamais il arrive, que la gauche. Si je suis votre raisonnement.
Dans un deuxième temps, oui. Elle a déjà fait. Je veux dire, la gauche, par exemple, je pense, la gauche au gouvernement n'a jamais fait face à une épidémie de peste ou à une grande famine. Les rois du Moyen-Âge, les seigneurs, c'était leur quotidien.
Alors la grande peur contemporaine aujourd'hui, elle est liée à la crise climatique, avec peut-être donc cet effondrement de la société ou des sociétés, dont le film, il y a un personnage, c'est une artiste, c'est une grande bourgeoise, qui essaie de convaincre son entourage et qui va essayer de convaincre le maire de Lyon d'intervenir pour essayer d'agir justement sur ces questions-là. Et comme elle n'est pas écoutée, elle aussi, elle se heurte à des murs infranchissables. Elle fait un certain nombre de séjours en hôpital psychiatrique et il y a son Marie qui dit d'elle, je ne sais pas si c'est la folie qui lui fait voir la vérité ou si c'est la vérité qui la rend folle. Moi, je trouve que cette phrase, elle est très, très importante dans votre film parce que c'est aussi une forme de diagnostic, pas seulement du monde politique, mais de la société en général, Nicolas Parisère.
Oui, après, je pense que c'est une phrase qui s'applique à bien d'autres choses qu'à la situation environnementale et au réchauffement climatique. Je suis pour la raison, disons. Mais la raison qui voit trop, disons le
trop lucide peut-être
la lucidité, disons qui irait trop loin, elle peut être paralysante. On oublie qu'on va mourir, on oublie tout un tas de choses qui nous permettent d'agir et disons la vie normale, même d'une certaine manière la vie souhaitée, elle nécessite une certaine forme d'irresponsabilité ou d'insouciance. Quand on est trop soucieux, effectivement, on n'arrive plus à vivre.
Comment est-ce que vous avez travaillé, Nicolas Parisère, pour documenter votre film? C'est vous qui avez écrit le scénario.
Oui.
Je crois que c'est vous également qui signez les dialogues. Est-ce que vous avez rencontré des politiques, des entourages de politiques pour essayer de savoir un peu comment ça fonctionne?
Alors j'ai la chance d'avoir des proches autour de moi qui travaillent qui ont travaillé dans la politique il y a pas très longtemps. Donc ces proches-là pouvaient me dire si je me trompais quand je leur faisais lire une scène ou pouvaient voilà à un moment donné j'ai demandé à un ami qui avait travaillé à la mairie de Paris fais-moi une liste de 4 crises que peut connaître une mairie qu'on pourrait résoudre dans la journée par exemple. Donc vraiment sur la vie quotidienne, j'avais autour de moi des gens qui pouvaient me donner des conseils. Ensuite sur l'aspect je dirais cinématographique, c'est-à-dire sur comment les gens se déplacent, comment les gens sont habillés, comment se passe un conseil municipal. Là, c'est un mélange vraiment d'observation de ce que j'ai pu voir à la télévision et puis d'invention. C'est-à-dire j'ai quand même inventé pas mal de choses d'ailleurs quelqu'un qui me l'a reproché très violemment à Lyon, de dire mais vous vous rendez compte, vous prétendez que le maire de Lyon se déplace à Lyon avec des motards et des voitures, c'est un scandale. Alors voilà, il y a tout un tas de choses que je montre dans le film qui ne sont pas la vérité, parce que j'avais envie de prendre des libertés avec ça. Donc voilà, il y a une part effectivement, je dirais documentée, en tout cas sérieuse. C'est-à-dire, je voulais pas faire n'importe quoi. Et puis, il y a une part d'invention, oui. Et puis même une part d'invention des comédiens. Par exemple, Fabrice Lucchini, quand il arrive dans le conseil municipal et qu'on se dit tout de suite, à mon avis, c'est le maire de Lyon, c'est lui qui a inventé sa manière d'être pour être maire de Lyon. Il a absolument pas observé d'homme politique.
Alors, les motards et les présidents, Nicolas Parisère, ils seront peut-être encore plus pertinents si vous faites une suite à ce film qui pourrait s'appeler Alice et le président. Auquel cas, vous pourrez peut-être passer un petit coup de fil à Christophe Prochasson, le président de l'EHESS, qui a été le conseiller éducation de François Hollande. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et vous êtes allé lui demander ce qu'il pensait du film.
Oui, il a vu votre film, Nicolas Parisère, et je lui ai donc demandé ce qu'il en avait pensé au regard de sa propre expérience. Ce qui l'a d'abord frappé, c'est la description que vous faites d'un certain rapport à l'urgence dans le travail. travail quotidien.
On voit bien que le conseiller intellectuel, je veux dire, cette figure-là, hein, les autres, c'est un peu différent, mais le chercheur, celui qui a l'esprit critique, a besoin de temps. De temps pour lire, il a besoin de temps pour réfléchir, il a besoin de temps pour échanger. Bon. Or, le temps politique est un temps beaucoup plus heurté, beaucoup plus haché, qui impose souvent des réactions immédiates. Bon, il y a une scène dans le film qui illustre ça très bien, c'est lorsque la directrice de cabinet arrive avec le livre du maire et lui dit « Pouvez-vous lire ça ? Vous avez combien de temps ? Une heure. » Et puis non, finalement, une demi-heure. Et on la voit bien un peu déconcertée, Alice. Et ça, moi, j'ai vécu ça tout à fait, et ça me paniquait d'ailleurs totalement, des coups d'accélérateur. Par moment, j'avais du temps pour rédiger une note, on me donnait... Et puis après, tout d'un coup, non, il fallait faire un discours tout de suite et immédiatement. Et cette façon de travailler était totalement paniquante.
Et justement, cette préparation des discours est un moment clé de votre film, un moment de complicité entre le maire de Lyon et sa conseillère. À l'Élysée, à l'époque de François Hollande, les choses se passaient de façon un petit peu différente.
Le moment des discours, c'est toujours un défi extraordinaire pour les conseillers. Nous savions tous que ça allait être un tunnel épouvantable lorsque nous avions à préparer un discours. Alors ce discours, il était rédigé par les conseillers qui prenaient des éléments, parfois en les demandant au ministère, parfois en les faisant d'ailleurs rédiger complètement par les ministères, etc. Bon, et puis une fois qu'ils avaient achevé leur tâche, on envoyait le discours au secrétariat et on attendait le retour. Et c'était un folklore entre les conseillers de dire « T'as reçu ton discours ? Il est redescendu ? Non ? Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ah bon. Et puis au bout d'un certain temps, le discours redescendait, comme on disait. Et là, c'était un massacre en général. C'est-à-dire que le président de la République... Moi, j'avais ce sentiment d'être dans la situation un peu amusante et rajeunissante d'un élève qui attendait sa copie annotée par le professeur avec des formules dignes d'un professeur et des soulignés, et des barrés, et des « ça ne veut rien dire », etc. Bon. Alors, on se remettait à la tâche pour améliorer sa copie comme un bon élève. Et ce va-et-vient pouvait durer comme ça un certain temps jusqu'à ce que le discours ne redescende plus. Et donc, nous supposions que c'était la bonne version du discours. Mais à la fin des fins, oh surprise, lorsqu'on écoutait le discours, en fait, ce n'était pas celui-là encore. Et c'était un autre discours que le président de la République prononçait.
Voilà, ça vous inspire quoi, Nicolas Pariser, ces souvenirs de Christophe Prochasson?
Bah, c'est toujours... Moi, je suis très, très client des témoignages qui ont un rapport avec le monde politique. Il se trouve que moi, ma compagne a écrit beaucoup de discours et qu'elle me raconte... Elle me racontait beaucoup des choses comme ça. C'est-à-dire, on lui demandait...
Des discours pour qui?
Pour notamment pour Harlem Désir quand il était premier secrétaire du Parti socialiste, elle me disait voilà, on m'a demandé d'écrire par exemple un discours sur l'éducation. Évidemment, il fallait qu'elle demande, qu'elle court après le délégué à l'éducation du Parti socialiste pour savoir ce que devait penser le premier secrétaire du Parti socialiste. Après, il fallait l'envoyer effectivement au directeur de cabinet, Harlem Désir. Ça remontait, ça redescendait, et puis effectivement, exactement comme il dit, à l'arrivée, elle écoutait, et puis je voyais à sa tête si c'était le discours qu'elle avait écrit. Et puis alors parfois c'était pas le discours qu'elle avait écrit, alors là elle était un petit peu contrariée. Elle me dit non mais c'est pas grave, je sais, parce que voilà. Mais oui, il y a quelque chose de voilà. Moi, dans mon film, il y a effectivement une scène de discours qui est plus romanesque, parce que c'est pas un discours technique, c'est pas un discours de maire, c'est le discours de quelqu'un qui en fait un premier pas vers la présidence. Donc c'est vraiment le discours de sa vie, et c'est en plus le dernier fignolage d'un discours. Mais ça m'intéressait en tout cas de montrer comment pouvait se fabriquer un discours politique et ce que ça pouvait avoir d'un peu littéraire quand même, c'est-à-dire le choix du bon mot, le choix de la bonne formulation.
On y entend, enfin, me semble-t-il en tout cas d'ailleurs, quelques accents de ce que fut le discours du Bourget de François Hollande quand il se présente à la candidature pour l'Élysée, dans lequel il évoque notamment le monde de la finance. Au moins dans les discours en tout cas, Nicolas Pariser, il y a le temps d'écrire, même s'il y a beaucoup de modifications. Il y a aussi d'autres façons d'écrire pour les politiques. Ça aussi, c'est une scène de votre film où Paul Terrano a fait une sortie sur l'écologie qui crée un mini scandale du côté de Lyon. Et là, il y a tout le staff qui se réunit pour essayer de trouver des éléments de langage qui puissent tenir en 140 signes. Parce qu'à l'époque,
Twitter. À l'époque de votre film, peut-être que Twitter était encore à 140 signes. J'ai vu dans le dossier de presse que vous disiez aussi à travers ce film, vous vouliez montrer les différentes façons qu'ont les politiques de prendre la parole, enfin les différentes formes de prise de parole.
Oui, je voulais qu'il y ait toutes les paroles possibles d'un homme politique. Alors, un discours commémoratif, un discours de présidence, enfin de candidature à la présidence, un discours beaucoup plus technique, par exemple, au moment d'un vote au conseil municipal, où là, c'est vraiment, on a l'impression de quelque chose, c'est presque du droit administratif. Je voulais aussi des conversations entre des amis. Il y a des scènes où des amis discutent politique de manière décontractée. Je voulais qu'il y ait effectivement le discours de la communication, des éléments de langage. Enfin, j'essayais un petit peu comme ça d'être exhaustif sur tous les types de paroles politiques aujourd'hui. Oui.
Et face à cette brièveté, évidemment, la jeune philosophe Alice se trouve à la fois déconcertée, même si c'est elle qui finalement va trouver la bonne formule. Un des grands intérêts de ce film, je le disais en ouverture, puis on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est la relation qu'entretiennent les intellectuels avec ce monde de la politique, enfin les relations ou l'absence de relations, la difficulté pour les premiers à trouver leur place dans l'espace des seconds, sachant que les politiques ne les ménagent pas toujours.
Les militants, les universitaires, ils sont capables que d'une chose, c'est d'organiser des colloques. Alors ils invitent d'autres intellectuels pour parler entre eux en circuit fermé. On est bien obligé de faire appel à des sociétés extérieures pour avoir des idées vraiment innovantes.
Ben oui, mais il faudrait qu'on nous écoute un peu.
Le problème des intellectuels, c'est qu'ils pensent qu'un raisonnement rigoureux, c'est une fin en soi, c'est pas un moyen. Mais moi, en tant que maire, avec un raisonnement rigoureux, je peux pratiquement rien faire. D'abord, je perds les élections. Je suis complètement impuissant face aux populistes, face à ma majorité, face à l'opposition. Moi, j'ai besoin d'intuition, j'ai besoin d'idées fortes, j'ai besoin de courage. L'appel du 18 juin, c'est pas l'acte d'un intellectuel. C'est, je sais pas, moi, en juin 1940, les intellectuels, ils étaient complètement paumés. Vous avez qu'à lire les écrivains de l'époque.
Ouais, qu'est-ce qu'elle lui répond, Alice, au maire?
Elle lui répond L'étrange défaite et Marc Bloch. Qui a écrit le livre définitif sur l'état de la France en 40 et puis qui ensuite est devenu résistant et qui a été fusillé par les nazis. Donc moi j'aime bien de toute façon dans mes films qu'il y ait de la dialectique, c'est-à-dire que je suis pas là pour asséner des vérités. Je suis plutôt là pour voir où sont les tensions. Je suis plutôt là pour voir quel est l'endroit où personne n'a raison. Où chacun a raison, et qu'est-ce qu'on fait au moment où chacun a raison.
Voilà. Mais est-ce que Alice, donc cette philosophe, elle se retranche pas un petit peu trop facilement derrière ce discours, il faudrait qu'on nous écoute? Parce que quand on voit le film, finalement, on voit bien que le maire de Lyon a du mal à avancer, comme il a pu le faire au cours de sa carrière. Mais cette jeune philosophe qui est dans le monde des idées, elle a du mal, elle aussi, à avancer. Est-ce qu'elle est beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, finalement? Et est-ce que les intellectuels ne sont pas dans une impasse identique à celle des politiques?
Je pense que la responsabilité, elle est de chaque côté. C'est-à-dire qu'effectivement, un homme politique qui n'a pas la curiosité de lire une étude sérieuse en sociologie et qui préfère écouter un institut de sondage sur un sujet provoquant, par exemple, voilà, il a une responsabilité. Mais de l'autre côté, effectivement, l'intellectuel qui arrive avec sa somme sur les pratiques, je sais pas, des gens qui vont à tel camping de 1995 à 1997 et que ça aurait une utilité probablement pour un homme politique. Je veux dire, une fois qu'il a fini son étude, il a fini son étude, il passe à autre chose. Donc il y a aussi, disons, un affect qu'on a tous, qui est d'avoir un surplomb aussi sur la pratique politique. C'est-à-dire que qu'on soit chercheur, journaliste, réalisateur, ou même citoyen qui n'a pas la chance d'avoir, disons, la parole dans l'espace public, chacun pense en fait que les hommes politiques pourraient faire mieux. Que si ça se passe si mal, c'est parce qu'ils sont irresponsables, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont corrompus, etc.
Ce qui n'est pas du tout le propos du film, il faut dire.
Pas du tout. Je pense qu'en fait, il y a une responsabilité collective dans l'échec du politique aujourd'hui. Et je cherche absolument pas à dédouaner les hommes politiques. Mais je pense que la responsabilité est aussi du côté des intellectuels et aussi du côté des citoyens qui détestent et les intellectuels et les hommes politiques.
Alors sur la difficulté d'opérer cette rencontre entre le monde des idées et le monde de l'action politique, vous êtes retourné voir Christophe Prochasson, Antoine Ulcère.
Oui, pour lui demander justement quel pouvait être ce rôle des intellectuels auprès des pouvoirs politiques dans la réalité, un rôle forcément trop limité et souvent frustrant en termes d'influence réelle sur les grandes décisions et le cours des choses, à l'exception de quelques moments très particuliers. Christophe Prochasson nous les raconte.
J'ai par exemple été assez content de pouvoir faire connaître au président Hollande un certain nombre de chercheurs qu'il ne connaissait pas, les faire rencontrer, donc qu'il entende un certain nombre de choses qu'il n'entendait peut-être pas avant. J'ai eu de trop rares discussions avec lui de fond, quelques-unes. Il y en a une qui me vient à l'esprit une fois sur la fin du mandat, discussion autour justement de la présidence normale et de ce qu'il en voulait faire, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Donc il y a eu comme ça des petits passages. Mais en termes d'action proprement parlée, non, je suis lucide. Le bilan est extrêmement maigre, mince, au regard de ce que l'on peut fantasmer sur la puissance prétendue d'un conseiller de l'Élysée qui, en réalité, n'a pas grand pouvoir.
Voilà, c'était l'historien Christophe Prochasson à qui on en doit un ouvrage paru cette année, Voyage d'un historien au cœur de l'État chez Fayard.
Alors Nicolas Parizard, il y a eu la normalité de François Hollande. Pour Paul Terrano, maire fictif de Lyon incarné par Fabrice Lucchini, il y a la modestie qui lui est soufflée par Alice, cette jeune philosophe, avec la même difficulté à incarner la modestie qu'a pu avoir François Hollande à incarner la présidence normale.
Oui, il me semble que la modestie a un sens plus précis que normal, parce que ça veut dire quoi normal? Ça veut rien dire en fait. Donc d'une certaine manière, Mitterrand, pour un président, il était normal. Enfin, il avait jamais d'argent sur lui. Il se prenait pour le roi. Il était normal pour un président. Donc modeste me semble être un concept plus précis. Et en plus, il a plusieurs sens. C'est-à-dire, c'est à la fois la modestie de l'homme politique qui ne doit pas se prendre nécessairement pour Louis XIV ou Bonaparte dans l'exercice de ses fonctions. Et puis aussi, la modestie, c'est qu'est-ce qu'on peut demander à la politique? Quelle est sa juste ambition? C'est-à-dire, alors changer le monde, c'est probablement trop. Mais quand Mitterrand dit contre le chômage, on a tout essayé, ou quand il y a ici ou là des aveux d'impuissance, l'ambition est trop faible. Donc dans mon film, la modestie, ça veut dire avant tout la recherche de la juste ambition du politique. Que peut le politique exactement?
Voilà, et votre film, c'est donc Alice et le maire. C'est en salle depuis mercredi. C'est avec Fabrice Lucchini, Anaïs de Moustier, mais également Léonie Simaga et Nora Hamzaoui. Merci beaucoup, Nicolas Parizère, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Politique.
Merci.
La Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Émission que vous pouvez retrouver et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture. Dans un quart d'heure, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30.